Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un quatrième volet et un épisode autour de ces deux figures, Sainte Germaine de Pibrac et de ce frère capucin, ce père Marie-Antoine de Lavaure, surnommé le Saint de Toulouse. Et c'est l'auteur que je reçois, Jean-Claude Jaffé, de ce petit ouvrage sur la petite bergère et le capucin, paru récemment aux éditions du Pêche. Bonjour Jean-Claude Jaffé.
Bonjour Nathalie.
Nous avons terminé notre entretien d'hier sur cette figure du père capucin, Marie-Antoine. Et vous avez parlé vous-même d'une spiritualité de ce père capucin. Quelle est-elle, cette spiritualité ?
Alors, ce n'est pas une spiritualité intellectuelle, ignatienne. C'est la spiritualité du cœur, et passez-moi l'expression, des pieds. Voilà. Il faut marcher, il faut aller au-devant des gens, quels qu'ils soient. Quel qu'il soit. Et ce qui m'a frappé, c'est le fait que le père Marie-Antoine, non seulement, on l'a déjà dit, est allé fort loin. Il était un peu comme Saint-Dominique, avec les semelles aériennes, si je puis dire, qui le faisaient avancer, qui le galvanisaient, qui le poussaient, qui lui permettaient d'avancer sans cesse. C'est lui qui va aux périphéries. Il sort. Il n'est pas dans son église, dans sa chapelle. Il va au dehors. Et on a un certain nombre d'exemples qu'on pourrait citer. Et je pense peut-être à une paroisse que vous connaissez bien, Nathalie.
Oui, je connais bien cette paroisse. C'est sur cette ville de Toulouse, cette ville rose, où le père Marie-Antoine fait de nombreuses missions et de nombreuses prêches. C'est sur ce quartier du Faubourg Bonnefoy, un quartier populaire, et cette paroisse de l'Immaculée Conception. Et vous avez consacré donc dans ce petit ouvrage un passage à l'Immaculée Conception. Donc je reprends juste un court extrait de ce paragraphe. Cette église, il l'appellera donc l'Immaculée Conception, on est en 1858, et c'est la première église au monde à porter cette dédicace. C'est pas rien. Et ce père Marie-Antoine sera en mission avec un autre curé, Philippe Ravary, un curé de choc, et finalement au fond, et c'est vous qui l'écrivez, et j'ai bien envie de rebondir sur cette phrase, un curé de choc avec ce père Philippe Ravary, et un capucin bulldozer. Quelle équipe toulousaine.
Ah, wow. Tout à fait.
C'est fabuleux. C'est un peu comme ça que vous avez approché ces deux personnages.
Ce sont deux personnages, ils se sont connus, j'allais dire à l'école, au petit séminaire à l'Esquil, et ils ont gardé, malgré une petite différence d'âge, ils ont gardé des liens amicaux, et ce sont deux figures qui ont un zèle apostolique exceptionnel. Le père Ravary, Philippe Ravary, qui deviendra chanoine, a reçu de son évêque une lettre de mission que je trouve extraordinaire, exceptionnelle. Avec les termes ecclésiastiques qui correspondent au langage de l'époque, que je traduis de manière un peu désinvolte, chers jeunes, chers séminaristes, j'ai rien à vous donner, je vous fais confiance, faites tout ce que vous voulez. Et le pauvre Philippe Ravary est là, dans ce quartier, il n'y a pas d'église. Il faut qu'ils construisent une église, un ensemble paroissial. Et heureusement, il avait des parents qui étaient de riches maraîchers, qui vont offrir de terrain, etc. Mais il va construire. C'est un bâtisseur. Un bâtisseur comme le père Calvé à Saint-Cives, c'est la même période. C'est la période où le quartier est complètement chamboulé par l'arrivée, en 1850, du chemin de fer à Toulouse. Et nous avons cette rencontre dans ce quartier, à la fois des maraîchers et des cheminots. Et il faut savoir parler, à toucher le cœur de tous, de toutes les personnes qui ont des sensibilités différentes, qui ont des cultures différentes. Et le père Ravary, avec le père Marie-Antoine qui va venir dans le quartier, l'épauler, lui donner un coup de main pour animer cette paroisse, pour faire en sorte que cette paroisse soit vivante. Ah, vous imaginez, à arriver à faire des messes pour uniquement des hommes. Alors que les hommes, l'image que l'on a, qui attendent à la sortie sur la place pendant que les femmes prient. Non, là c'est l'inverse. 300 hommes qui vont à la messe, une messe rien que pour eux. Et on balade, si je puis dire, la statue de Saint-Germain à travers les rues du faubourg avec l'acclamation de la foule. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait ? Excusez-moi, à l'heure actuelle, on parlerait d'événementiel. Oui. Ce qui compte, c'est créer l'actualité, faire réagir les gens, les faire participer. Et il y a vraiment, vraiment, dans ces différentes manifestations, comme les pèlerinages, et en particulier à Pibrac, où il a excellé, il y a cette volonté et cette authenticité d'aller au-devant des gens et de les faire participer à leur manière.
Et reviens encore, et merci pour cet épisode incroyable, magnifique aussi d'une équipe et de deux hommes qui se rencontrent, et avec ce même zèle apostolique, et encore une fois, une action de grâce et une intercession de la petite Germaine dans cette
émission. Voilà, nous trouvons chaque fois la présence de Sainte-Germaine, beaucoup plus souvent.
Des petites touches de Sainte-Germaine régulièrement.
C'est par touche, mais je pensais que ce serait difficile de réaliser sur le parcours du Père Marie-Antoine cette présence de Sainte-Germaine. Et pourtant, à y voir de plus près, Sainte-Germaine est assez souvent présente.
C'est la sainte du Père Marie-Antoine de Lavaure.
Voilà.
Merci Jean-Claude Jaffé pour l'intervention du jour. Et on vous retrouve encore demain avec nos deux personnalités, personnages, visages de saints. Père Marie-Antoine de Lavaure, bientôt béatifié, et Sainte Germaine de Pibrac. À demain.
À demain.
Thank you.